Bien, Père éternel, on veut te remercier pour ce temps qu'on peut prendre, Seigneur, dans ta parole. Père, merci de nous avoir aimés. Merci d'avoir donné ton Fils. Merci de t'investir, Seigneur, pour le salut des hommes, pour notre salut. Et merci pour ce privilège, Seigneur, d'avoir ce mandat d'aller exalter ton nom parmi les nations, élever ton nom parmi les nations afin que d'autres soient conduits, Seigneur, dans l'adoration. Merci, Père, pour les gens autour de nous à qui on parle, à qui on témoigne, puis on leur partage, Seigneur, notre foi, ta gloire, ta majesté. On voit des cœurs qui s'ouvrent, d'autres qui sont résistants, Seigneur. Puis à un certain moment donné, on voit dans l'esprit de quelqu'un vraiment la grâce qui entre dans son cœur, Seigneur. On voit ce repos qui se trouve en toi. Et je veux te remercier pour les gens qui sont actuellement autour de l'Église, dans nos amis, notre famille, les collègues de travail, les gens qu'on rencontre à travers nos petits groupes. Merci, Seigneur, pour ceux qui cheminent. Viens leur accorder cette joie. Je pense à tous ceux qui vont venir tout à l'heure à l'Église, lors du grand rassemblement à 10h, Seigneur. Père, notre prière, c'est que ceux d'entre eux qui vont être ici, qui ne sont pas de l'Église, parce qu'ils ne sont pas encore des adorateurs, viens, Seigneur, leur étendre ta grâce. Viens, Seigneur, te révéler à eux. Viens leur montrer que tu cherches ta gloire et que tu cherches leur bonheur et que les deux sont au même endroit, sont dans la manifestation de ta gloire, Seigneur. Je te prie d'être avec moi ce matin pendant que j'enseigne, afin que ça puisse être clair et que ces vérités fondamentales concernant la mission puissent vraiment rentrer dans notre esprit, dans notre cœur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. J'aurais besoin d'une copie de mes notes de cours s'il en reste. Je suis désolé, parce que les feuilles des walls sont dedans, puis j'ai oublié de me les imprimer. Merci. Ou pas? Ah, non, ben merci, Daniel. Daniel va m'apporter la copie des feuilles des walls. Merci. C'est mon erreur. J'ai complètement oublié de les imprimer le matin. Oh là là. Juste une question avant de parler des walls. Qui dans le cours lit le livre? Ça va juste m'aider un petit peu à voir à qui je m'adresse. D'accord. Comme on n'a pas de cours la semaine prochaine, puis qu'ensuite on va revenir avec la prière, si vous êtes procuré le livre, mais que vous n'avez pas entrepris de le lire encore, j'aimerais ça vraiment vous encourager à lire un chapitre, c'est le chapitre sur la prière. Il est vraiment bien écrit. Ça va ranimer quelque chose dans votre cœur au niveau de la prière. On va le voir, bien sûr, à travers le cours, mais en même temps, le livre, c'est le livre. Donc, je vais vous encourager à lire. Puis, si vous avez commencé à lire le livre à travers le chapitre 1, puis vous avez rencontré l'écriture de John Piper, puis là, vous avez dit, non, je vais écouter le cours, bien, le chapitre 2 va vous réconcilier un peu avec John Piper, d'accord? C'est un peu dense, la manière qu'il écrit. C'est pas toujours... Quand il prêche, il est beaucoup plus fluide que dans son écriture. Mais c'est très, très riche. Et donc, le chapitre 2, moi, personnellement, j'ai vraiment été très, très, très béni. OK, je suis désolé pour les walls. On va revenir au prochain cours. Je suis désolé, je suis vraiment pas prêt là, pour aller là-dedans. Fait qu'on va compléter la leçon 3. Donc, leçon 3. La première page qu'on avait vue ensemble, le but suprême de l'Église n'est pas la mission, c'est l'adoration. La mission existe parce que l'adoration n'existe pas. Et on va compléter cette idée-là ce matin. J'espère pouvoir prendre quelques minutes pour prendre des questions. Si ces concepts-là sont pas clairs pour vous, en terminant cette section-là, j'aimerais au moins pouvoir répondre à vos questions puis vous aider à placer ça comme il faut. On s'était laissé la semaine dernière à la page 5 de nos notes. Avec l'idée que Dieu fait tout dans le plan du salut pour exalter la gloire de sa grâce. La semaine dernière, on s'était laissé sur l'idée qu'il n'y a absolument rien dans tout ce que Dieu a fait dans l'univers, sur la terre, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a rien qui manifeste sa gloire autant que sa grâce, autant que l'œuvre accomplie en Jésus-Christ. Et simplement regardez quelques versets dans Éphésiens 1. Puis si cette idée-là n'est pas limpide à vos yeux, prenez le temps d'aller relire les 14 premiers versets de Éphésiens 1, qui est en fait comme une longue phrase de l'apôtre Paul. Puis relisez-les, vous allez voir. Et à travers ce passage-là, on voit vraiment D'une part, que Dieu cherche absolument sa gloire, que sa grâce est la manifestation de sa gloire et que notre bonheur se trouve là. D'accord? Je pense que c'est vraiment le passage clé pour saisir ça. Donc, quelques versets, versets 5 et 6. « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » À la louange de la gloire de sa grâce. Donc Dieu, même dans notre prédestination, dans notre appel, il nous a préparé. Le but de ça, c'était que ça serve à la louange de la gloire de sa grâce. Et donc, lorsque je dis, on va dans l'Apocalypse, puis on voit l'agneau qui est vraiment au cœur de l'adoration, qui est assis sur le trône avec Dieu, et c'est la personne que tu vois, parce que Dieu est esprit, puis il est exalté, Christ est exalté, c'est parce que c'est ça qui manifeste le plus la gloire de Dieu. Versets suivants, 11 et 12. « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Donc le but, c'est qu'il soit glorifié, c'est à travers notre salut que ça va se produire. Éphésiens 1, 13, 14. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. » Et donc, Dieu manifeste sa gloire de manière suprême à travers sa grâce. Je me répète énormément, mais ça va être important après lorsqu'on pense à l'évangélisation, lorsqu'on pense à la mission. Ça va être important pour nous aider à réconcilier les gens avec la gloire de Dieu, d'accord? Au bas de la page 5, nous voyons donc que le bonheur des hommes qui se trouvent dans la grâce de Dieu contribue absolument à la gloire de Dieu. Notre espoir, notre bonheur sont en harmonie parfaite avec la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Et Dieu lui-même poursuit notre plus grand bonheur dans son zèle pour la manifestation de la gloire de sa grâce. Est-ce que ça fait du sens? Les deux ne sont pas en contradiction. Le cœur rebelle de l'être humain les oppose. L'idée que Dieu cherche sa gloire doit aller en contradiction avec notre bonheur, puisque, comme je l'ai dit la semaine dernière, je ne vais pas recommencer tout ça, mais le péché d'Adam et Ève, c'est de chercher son bonheur hors de la gloire de Dieu, séparément, une gloire propre à l'homme qui dépasserait dans son esprit la gloire de Dieu. D'accord? Et donc, c'est étranger. Pour un non-chrétien, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est étranger à sa pensée que notre plus grand bonheur se trouve dans la gloire de Dieu. Maintenant, avec la grâce, Dieu nous a donné un message qui est absolument extraordinaire. Il nous a donné un bon message, un message facile à annoncer, pas facile à recevoir, mais facile à annoncer. Parce que, comme je le disais la semaine dernière, c'est un message qui est raisonnable. Parce qu'on voit la bonté de Dieu envers les hommes. Donc, ce n'est pas simplement un Dieu qui est terrifiant, qui est terrible, puis qui dit « Vous devez m'adorer pour ma gloire », puis ça s'arrête là. Non, c'est un Dieu qui est bon, qui est amour, et ce n'est pas théorique cet amour-là, ça s'exprime de manière pratique à travers la croix de Jésus-Christ. Allez avec moi à la page 6. Comment est-ce que ça va se manifester? Ça va, cette bonté-là de Dieu, cette miséricorde de Dieu, va se manifester par le fait que Dieu prend à cœur, Dieu prend sur lui-même, je m'excuse l'anglicisme, Dieu prend sur lui-même d'aller, de poursuivre notre bonheur. Regardez bien Ésaïe 64, 3. « Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » Quand on pense, je pense que j'ai une citation un petit peu plus bas de Piper, oui, vers le bas de la page 6. « Alors que Dieu glorifie sa puissance en manifestant sa miséricorde, les autres dieux glorifient la leur en rassemblant des esclaves. » C'est vrai, des fois, lorsqu'on parle avec des non-chrétiens, puis on dit « Moi, je suis un serviteur de Christ », puis là, ils voient toute cette idée-là, puis là, on dit « Si tu veux la réalité, on va aller dans le texte, là. Serviteur, c'est plus comme esclave, tu sais. Ah, c'est quoi ça? C'est un esclave. » Oui, mais Dieu se dévoue pour notre bonheur et il sait que notre bonheur se trouve là. Alors que toutes les divinités qu'on voit ailleurs, ce sont des divinités qui demandent à être tout simplement adorées et leur seul leur seule interaction avec les hommes, c'est celle de faire des esclaves qui, servilement, vont l'adorer. C'est pas l'histoire de l'humanité dans sa relation avec Dieu. Dieu nous a créé à son image, puis il vient nous faire grâce, et il nous invite. Et c'est lui qui pourvoit. C'est lui qui pourvoit tout ce qui est nécessaire pour notre salut. Ésaïe 64:3, « Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez la question au début de cette leçon-là, de cette deuxième partie-là, c'était comment est-ce que l'élévation de Dieu peut vraiment se marier avec l'amour? Comment est-ce qu'un Dieu qui cherche sa gloire avant tout peut vraiment être un Dieu aimant et qui se donne? On le voit à travers la croix et on le voit dans le fait que c'est lui qui pourvoit. C'est lui qui pourvoit notre salut. Et c'est pour ça que, admettons, le salut par les œuvres, Éphésiens 2, 8 et 9. Le salut par les œuvres, c'est quelque chose qui vient enlever de la gloire à Dieu. On ne croit pas dans le salut par la grâce, simplement sous l'argument que de toute façon, on ne pourrait pas être sauvé par nous-mêmes. C'est que si je pouvais être sauvé par mes propres œuvres, Dieu ne mériterait pas toute la gloire de mon salut. Mais c'est Dieu qui pourvoit au moyen de salut. Et ce moyen de salut-là est parfait. Il ne tolère aucune œuvre méritoire de ma part. Christ a tout accompli. Il n'y a rien. Ça serait inacceptable qu'une œuvre méritoire de ma part qui m'accorde des mérites pour mon salut vienne à quelque part enlever la gloire à Dieu de mon salut. Est-ce que vous me suivez? C'est vraiment important. C'est vraiment important. Puis dans la mesure où je suis convaincu de ça, quand je m'en vais annoncer l'Évangile à quelqu'un, j'ai une dame là, qui m'a posé une question la semaine dernière. Puis j'ai gardé la réponse pour un petit peu plus loin dans la conversation. On va se voir plusieurs semaines. Puis elle dit, « Tu veux-tu bien me dire pourquoi Dieu il a donné son Fils pour les hommes? Moi, je ne donnerais jamais mes enfants. » On l'entend assez souvent. Hein? C'est comme si... C'est un sans-cœur, finalement. C'est pas un bon père. Il a donné son Fils pour le salut des hommes, tu sais. Il n'y a aucun bon sens. Non, la gloire de Dieu est là, dans le fait qu'il a donné son Fils. Fait qu'il faut que j'aille faire la bataille avec les idées, avec la parole de Dieu pour redresser les faux raisonnements qu'il y a dans cette pensée-là lorsque cette dame-là me dit ça. Non, je comprends parce que toi, tu fais une projection. Tu penses que c'est juste avec un mauvais cœur qu'on pourrait donner notre Fils. Mais c'est plus subtil, puis c'est plus beau que ça. Puis je vais pas tout de suite aller me réfugier dans l'idée de dire, non, mais il était consentant. Tu sais, Jésus était consentant, c'est correct, là, c'était pas contre son gré. Non, je vais aller plus loin que ça. C'est parce que si c'était pas lui qui avait pourvu à notre salut à 100%, il mériterait pas toute la gloire de notre salut. Et donc, Dieu manifeste sa gloire à travers sa miséricorde, et c'est lui qui prend la responsabilité de toute l'action de sa miséricorde. C'est lui qui pourvoit parfaitement. Au bas de la page 6, juste avant d'arriver au le message le plus facile à annoncer, nous bouclons tranquillement la boucle de la passion de Dieu pour sa propre gloire. Dieu est passionné de sa gloire parce qu'il est la perfection même. Ça pourrait s'arrêter là. Or, ceci ne fait pas de lui un être égoïste et purement centré sur lui-même. On le dit, Dieu serait raisonnable s'il était passionné par sa gloire, même s'il avait manifesté aucune miséricorde envers les hommes. Il serait raisonnable. C'est lui qui est le plus glorieux. Il serait juste détraqué s'il trouverait qu'il y avait quelque chose de plus beau que lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, les perfections de Dieu comprennent aussi son amour et sa miséricorde qui l'ont conduit tour à tour à nous créer pour que nous entrions dans sa gloire par amour pour nous. Il nous a créés à son image, qu'on puisse participer à sa gloire. Qui l'ont conduit tour à tour à nous créer pour que nous entrions dans sa gloire, comblés de joie et à pourvoir à notre salut par le don de lui-même. Dieu ne saurait être comparé aux autres dieux. Et donc, c'est fondamentalement, je sais, là, je vois vos visages, j'ai pas de doute concernant les personnes qui sont ici, mais je vous dis quand même que dans nos églises, de plus en plus, si les gens ne sont pas bien, bien ancrés dans la parole de Dieu, ils ont un peu de difficulté avec l'idée de dire qu'il y a un seul Dieu. D'accord? Il y a un seul salut en Jésus-Christ. Je crois que certains vont l'accepter pour leur salut, puis après, lorsqu'ils vont discuter avec d'autres personnes, puis ils vont arriver avec une discussion avec des musulmans, puis ils vont dire, mais il y a Allah, Puis, tu sais, il y a Dieu, puis dans le fond, là, ça veut dire Dieu à quelque part, fait que dans le fond, tu sais, c'est tout le même Dieu, on parle du même Dieu. Fondamentalement, Allah et Dieu, c'est deux personnes qui sont, c'est deux êtres complètement différents. On parle pas de la même personne du tout, du tout. Puis je peux pas aborder la discussion juste en disant c'est le même Dieu. Je peux pas faire ça parce que lorsque j'apprends à connaître Allah, je vois très bien qu'il s'agit pas du Dieu de la Bible. Parce que ce Dieu-là ne ferait jamais ce que Dieu a fait. Je veux dire, la première chose qu'un musulman va te dire, s'il te parle franchement, lorsque tu vas y parler du sacrifice de Jésus-Christ, c'est que Dieu aurait jamais fait ça. Il aurait jamais fait ça à son prophète. Pour eux, c'est inconcevable. Un Dieu qui va prendre à cœur notre salut à un point tel où il va donner, pour les musulmans, Jésus, Isha, c'est le plus grand des prophètes. Et donc, pour eux, c'est absolument inconcevable l'idée que Dieu sacrifierait le plus grand de ses prophètes pour le salut des hommes. C'est complètement dégradant pour ce prophète-là. On ne mérite pas du tout ça. Ben, jusque-là, on se rejoint. C'est complètement dégradant. On ne mérite pas du tout ça, mais voilà la miséricorde de Dieu. Christ a été complètement dégradé. On ne méritait pas du tout ça, c'est vrai. Mais il a pourvu. Et donc, l'islam base tout son salut sur les œuvres, parce que la miséricorde, la grâce, n'existe pas réellement. Ils vont dire « Allah est miséricordieux », mais c'est vraiment pas dans la même dimension, disons, puisque le concept de grâce tel qu'enseigné par l'Évangile n'est pas présent. Et donc, ce que ça fait, c'est que, raisonnablement, on a le message le plus facile à annoncer. On te demande de te regarder comme quelqu'un qui... on te met pas de pression, tu sais. On te demande pas d'être quelqu'un. On te demande pas d'être super hot. C'est vrai qu'on te demande quelque chose de difficile, c'est de réaliser que t'es pas super hot. Mais on te demande pas d'être quelqu'un. Pour être chrétien, t'as pas besoin d'être bon, t'as pas besoin d'être quelqu'un de très spirituel, t'as pas besoin d'être quelqu'un d'intègre. En fait, ça nous aiderait si tu voulais juste reconnaître que tu fais vraiment dur. Ça serait plus simple, tu sais. Fait qu'enlève toute la pression, tu fais dur, je fais dur, on fait tout dur. C'est bon? Mais Dieu, lui, est pas comme ça. Puis Dieu a tellement eu à cœur notre salut qu'il a fait ce que nous, on pourrait jamais faire. Il a comblé la distance, il est venu vers nous, il a offert son Fils en sacrifice, il a pourvu à notre salut. Et on peut se réconcilier avec lui. Mais la bonne nouvelle, le bon message qu'on a annoncé ne s'arrête pas là. C'est qu'en fait ça, c'est ce qui va le plus contribuer à notre bonheur. Parce que Dieu est le plus glorifié lorsqu'on trouve vraiment notre plaisir en lui. Dieu est le plus glorifié lorsqu'on trouve vraiment notre bonheur en lui. Et donc, Dieu veut notre bonheur. Dieu cherche il cherche pas juste à nous sauver de l'enfer. Il veut nous amener au ciel. D'accord? Il veut nous amener dans sa présence, dans sa gloire. Au bas de la page 6, nous pouvons voir maintenant toute la pertinence de l'approche de M. Piper à la mission, en commençant par la personne de Dieu et par l'adoration. Nous tirons notre bonheur et notre joie de ces moments de pur plaisir et d'extase que peuvent nous procurer un succulent repas, une scène sublime et calme à laquelle nous assistons, c'est vrai. Sur la terre, je veux dire, comme des bons hédonistes québécois, on a un bon souper avec des amis, une coupe de vin à la table, si vous buvez du vin, puis on trippe. C'est juste le bonheur total. C'est une super soirée, presque parfaite. D'accord? Mais en fait, Dieu nous convie à un bonheur plus grand que celui-là encore. Et c'est ça qu'il cherche. Il cherche pour nous un bonheur encore plus grand. Tous ces bonheurs-là sont des avant-goûts d'un bonheur plus grand qu'on a avec Dieu. Adorer Dieu et contempler sa gloire, jouir de la véritable communion avec lui, sont absolument de tout ce bonheur recherché. Je m'excuse pour la faute de français. Juste après, notre message est donc ceci. Venez et soyez heureux. Nous invitons les hommes et les femmes de toutes les nations du monde au bonheur. Puis moi, le premier, lorsque je vais annoncer l'Évangile à quelqu'un, je sais c'est quoi les choses difficiles que la personne doit accepter. Elle doit accepter qu'il est un moron pareil comme moi. Puis il n'a pas connu la grâce, fait que c'est difficile à accepter. Il est orgueilleux comme tous les êtres humains. Il va devoir accepter que Dieu est juste si Dieu l'envoie en enfant. Tu sais, j'ai tout en tête, tous les obstacles à sa conversion. Puis dans le fond, ce que Piper nous rappelle ici, c'est que c'est pas ça que je suis supposé d'avoir en tête. Ça, c'est des choses qu'on va devoir traverser. Il faut que ça fasse partie de la discussion. On va falloir passer par ces passages-là pour réussir à arriver à ce que ce cœur-là, devant moi, rebelle, devienne un cœur d'adorateur. Mais ce que je dois avoir en tête, c'est que je l'appelle au bonheur de l'adoration. C'est à ça que je l'appelle. Puis lorsqu'on pense à la mission, puis on voit les nations qui sont perdues, puis qui périssent, puis on voit l'Occident qui est en train de se transformer, puis là, nous, ce qu'on voit, c'est... Mes amis, ça va être de plus en plus dur de les conduire à Christ, ces gens-là. Bon, on pourrait dire, non, tu sais, je dis, sont à la même distance d'une conversion, c'est un miracle. Ils sont toujours à un miracle d'une conversion, c'est l'œuvre de l'Esprit, c'est vrai. On est d'accord, mais vous comprenez qu'il y a beaucoup de faux raisonnements, là. Puis plus tu regardes aller la culture, plus tu dis, et tu pars de loin. Avant, il y a 30 ans, il y a 20 ans même, tu allais à quelque part, tu savais que la majorité des gens avaient des concepts de base, ils avaient tous vu Jésus de Nazareth, tu sais, dans le temps de Pâques, puis tu avais un point de départ. Maintenant, de plus en plus, c'est même, est-ce que la Bible, la parole de Dieu, de quoi tu parles? La vérité, ça n'existe pas, tout est relatif. On part de loin. Et donc, moi, le premier, lorsque je m'en vais dans l'évangélisation, lorsque je pense à la mission, je vois tous les obstacles, puis les obstacles en Occident qui sont en train de se construire, pour tous ces faux raisonnements qu'on va devoir faire tomber pour réussir à arriver vraiment à toute la beauté de l'Évangile. Ce que Piper nous rappelle, c'est que c'est pas là qu'on doit regarder. Ce qu'on doit regarder, c'est qu'est-ce que je m'en vais faire. Parce que lorsque je suis fixé sur les obstacles, c'est comme si je pars puis je me dis, OK, je suis mieux d'être gentil, bon puis intelligent, là, parce qu'on a beaucoup de chemin à faire, tu sais. Fait que j'arrive quasiment en m'excusant. Ceux qui sont de l'autre côté, qui à mon avis sont vraiment pas mieux, je vous le dis, là, ça dépend de votre tempérament. Vous êtes quelqu'un de très dur, vous allez de ce côté-là, vous êtes quelqu'un d'un petit peu, moi je suis un colérique, mais je suis pas quelqu'un de dur. Fait que j'arrive comme quasiment un petit peu en disant, écoute, je sais, là, je vais vraiment déstabiliser ta vie, là. Ça va prendre beaucoup d'humilité pour avoir ce qui suit. T'as l'autre personne qui est de l'autre côté puis qui va insister sur la sainteté et la justice de Dieu. Vous êtes tous damnés, vous allez en enfer. Pour lui, c'est pas dur à dire comme message. Sauf que l'Évangile apparaît quand dans cette histoire-là? Tu comprends? Fait que la grâce puis la douceur qu'on trouve dans la personne de Christ. Christ était dur avec les hypocrites. Mais Christ était gracieux, il était doux, il était accueillant avec les pécheurs qui savaient. C'était le sujet du message la semaine dernière. D'accord? Mais dans les deux cas, si ce qu'on a en vue, c'est pas premièrement le fait, ce que je veux, là, c'est ton bonheur. Ce que je veux, c'est ton bonheur. Puis ton bonheur se trouve là, être un adorateur de Dieu. Et donc, c'est là qu'on veut conduire ces gens-là. Au milieu de la page 7, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder quelques éléments qui nous montrent dans le Nouveau Testament, l'accent était beaucoup sur l'Ancien, qui nous montrent dans le Nouveau Testament que Dieu est actif, Dieu est au cœur de la mission. Puis la gloire de Dieu est au cœur de la mission. Et une des manières qu'on peut le souligner très facilement à travers tout le Nouveau Testament, c'est l'idée du nom de Dieu. C'est là dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, ça va être beaucoup à travers le nom de Jésus-Christ. Donc, Dieu veut qu'on porte son nom. C'est son nom qui est au cœur de la mission. Et c'est le nom de Jésus-Christ qui va être élevé. Regardez avec moi au milieu de la page 7, Matthieu 19, 27 à 29. Jésus leur dit, il parle à ses disciples. Mais juste avant. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, donc du nom de Jésus-Christ, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Le Nouveau Testament nous apprend que Dieu veut que le nom de son Fils soit élevé parce qu'il porte en lui-même la gloire de Dieu et toute son action contribue à la gloire de Dieu. Donc c'est, on le voit à travers la personne de Christ, on voit ce que je vous disais là, lorsque je dis dans l'Apocalypse, la personne qui est assise sur le trône qu'on voit puis qu'on exalte, c'est l'agneau. On le voit à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc, l'auteur de la lettre aux Hébreux va nous dire qu'il a été humilié afin que son nom soit élevé, afin qu'il soit glorifié. Philippiens 2, 8 à, 9 à 11. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. » Fait que lorsqu'on est, par exemple, il y avait, lorsqu'on a donné le cours, j'ai donné le cours La foi chrétienne, expliqué l'autre session, il y avait une dame qui disait, « Pourquoi il y en a qui parlent tout le temps de Jésus? Pourquoi ils n'arrêtent pas de parler de Jésus? » Mais évidemment, c'est parce que je veux qu'elle saisisse l'Évangile. Mais c'est pas seulement ça. Il y a quelqu'un qui me disait, puis il y a du vrai dans ça. En fait, c'est Stéphane qui est là. Des fois, on avait des discussions sur la centralité de l'Évangile. Puis Stéphane me disait, si au moins tu me disais la centralité de Jésus-Christ, tu sais, ben c'est ça qu'on veut dire. C'est ça qu'on veut dire. Mais c'est que l'Évangile dit plus sur Jésus-Christ que juste Jésus-Christ. C'est son œuvre. Donc, lorsque le nom de Jésus-Christ est élevé, c'est pas juste parce que c'est le nom de Jésus. C'est à cause de ce qu'il a fait. C'est à cause de la gloire, de la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Et donc, il y a cette trajectoire-là dans le Nouveau Testament. Lorsque je m'en vais annoncer Jésus-Christ, c'est parce que je veux chercher la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu est le plus manifestée à travers la personne de son Fils. Et lorsque quelqu'un saisit Christ comme son Sauveur, son Seigneur, il ne pourra jamais glorifier Dieu plus que ça. Il ne pourra pas se rendre plus loin que ça. Parce que c'est Christ, c'est l'œuvre de Christ qui manifeste plus que toute chose la gloire du Père. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et donc, c'est pas... parce que c'est une discussion qu'on a. Hein? Des fois même, on va l'avoir avec des milieux plus charismatiques qui disent, il y a comme un déséquilibre, tu sais, tout l'accent est sur Jésus, puis là, il faudrait mettre de la place pour le Saint-Esprit. Puis des fois, on a des discussions autour de ça. C'est vraiment intéressant. Quand tu étudies le Nouveau Testament, puis tu regardes toutes les prières qui se font au nom du Seigneur, la majorité d'entre elles, le contexte va te permettre de voir que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là où Seigneur dans l'Ancien Testament fait plus clairement allusion à Dieu le Père, lorsque j'arrive dans le Nouveau Testament, la majorité d'entre elles font allusion à Dieu le Fils. D'accord? Et donc, ce n'est pas un détournement qu'on est en train de faire. On n'est pas en train d'enlever. Tu ne vas jamais enlever la gloire à Dieu le Père parce que tu exaltes le Fils. Ce n'est pas vrai, ça. C'est complètement faux. Dieu a décidé de manifester toute sa gloire à travers l'œuvre de son Fils. Et donc, je ne vais jamais offenser le Père parce que j'exalte le Fils. Jamais je vais faire ça. Ça me ramène au cœur de la Trinité. D'accord? Ça me ramène au cœur. Vous allez rencontrer des anti-trinitariens qui vont dire « Non, non, la Trinité, je ne la vois pas clairement dans les Écritures. » Comment tu ne peux pas voir la Trinité dans le fait que ce qui va manifester la gloire de Dieu de manière suprême et absolue, c'est l'œuvre de son Fils, c'est dans la personne de son Fils. Est-ce que Dieu serait en train de me dire que je devrais adorer quelqu'un qui est moins grand que lui? Est-ce que c'est ça, en fin de compte? Est-ce que Dieu serait en train de me dire de regarder ailleurs qu'à sa personne? Parce qu'il veut que je sois un adorateur de son Fils. Il a élevé son nom au-dessus de tout, non. Puis c'est à sa gloire. C'est parce que c'est Dieu le Fils. C'est Dieu le Fils. Dieu ne partage pas sa gloire. Mais il n'est pas en train de la partager avec un autre lorsqu'il la partage avec son Fils. C'est Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment intéressant. Ça fait qu'au bas de la page 7, le Notre Père, c'est une prière missionnaire. C'est une prière missionnaire. Et j'espère que vous allez adopter ça, puis vous allez la voir comme ça. Voici donc comment vous devez prier, nous dit Jésus dans Matthieu 6, 9 et 10. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À la lumière de tout ce qu'on a dit jusqu'à date dans ce chapitre-là, ça, c'est une prière missionnaire. Seigneur, on veut que ton nom soit élevé parmi toutes les nations. On veut que ton règne vienne sur la terre. On veut faire de toutes les nations de la terre des adorateurs de Dieu. On veut voir ta gloire. Ça, c'est une prière missionnaire. C'est la prière d'un missionnaire qui sait, qui a conscience que la gloire de Dieu n'est pas présente sur toute la terre à travers des adorateurs de toutes les nations de la terre. Et qui dit que ton nom soit élevé, Seigneur. Donc, le nom de Dieu est au cœur de la mission, puis ça, c'est une prière missionnaire. Quand vous allez prier cette semaine, faites-le. Priez-le Notre Père. Je ne pense pas qu'on le fait très souvent dans nos églises comme pendant la semaine, mais faites-le en prenant le temps de faire une prière missionnaire. Seigneur, aujourd'hui, je vais rencontrer des gens. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est ça que je veux aller leur annoncer, parce que ça va être ta gloire qui va se manifester dans leur vie lorsqu'ils vont devenir des adorateurs. Et donc, je vais aller un petit peu vite. Christ va révéler à Paul ce qu'il va souffrir pour son nom, pour le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Dieu qui est encore au cœur de la mission. Et qu'est-ce que Paul a eu comme mandat? C'est de conduire des hommes de toutes les nations en son nom. Romains 1, 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc le mandat de Paul, c'est d'amener des gens à adopter le nom de Jésus-Christ. Puis lorsqu'ils adoptent le nom de Jésus-Christ pour son œuvre, pour ce qu'il a fait, ils exaltent le Père, ils manifestent la gloire de Dieu, ils deviennent des adorateurs. J'ai trouvé intéressant, puis je vais terminer sur ça, puis on va pouvoir prendre quelques questions. J'ai trouvé ça intéressant. John Piper dit que c'est pas facile pour nous d'avoir une passion pour la mission simplement en disant « je veux sauver des gens de l'enfer ». Ce n'est pas quelque chose de simple. Parce que on va avoir un cœur compatissant pour notre famille, pour nos proches, pour les gens qui nous entourent, mais les gens qu'on ne connaît pas, les gens qui n'ont pas de nom pour nous, les figures qui passent sur la rue, avoir compassion d'eux, ce n'est pas quelque chose d'évident. Puis ce que Piper dit, il dit le plus grand motif pour la mission, ce n'est pas la compassion pour les perdus, pas premièrement. Le plus grand motif pour la mission, c'est l'exaltation du nom de Dieu. C'est l'exaltation de la gloire de Dieu. Donc, la mission dans ma vie commence le matin lorsque je me réveille. Je vous le partage souvent, moi c'est en révisant l'Évangile. Mais j'ouvre un psaume. Je commence toujours ma journée avec un psaume. Toujours. Fait que je m'en vais dans les psaumes, puis je m'en vais exalter Dieu. Je retrouve ma place à moi comme adorateur de Dieu. Puis parce que je trouve ma place comme adorateur de Dieu, ce que je veux faire, c'est que je veux conduire les gens qui vont être sur mon chemin aujourd'hui à devenir des adorateurs de Dieu. À travers le message de l'Évangile, je vais trouver la compassion, c'est là. J'ai de la compassion pour eux parce que c'est au cœur de ce message-là, c'est la compassion de Dieu pour les hommes. Donc, je vais avoir compassion du fait qu'ils sont perdus. Mais ce qui va me motiver premièrement, c'est cette perspective-là qu'un jour dans la gloire, des gens de tous les peuples, de toutes les nations de la terre, c'est un chapitre qu'on va voir un petit peu plus loin, toute l'étude sur les ethnos, toutes les ethnies, mais un jour dans la gloire de Dieu, des gens de toutes les nations de la terre vont être des adorateurs. Ils vont pas être des gens qui ont été sauvés de l'enfer. Ils vont être des adorateurs de Dieu d'abord et avant tout. Fait qu'à la fin, je lis la conclusion, puis je vais y aller à quelques questions. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu sur nos vies est de faire de l'Éternel nos délices et d'inviter tous les hommes à participer à cette même adoration. C'est ça l'appel de Dieu sur nos vies. C'est soyez vraiment des adorateurs. Soyez vraiment émerveillés par ma gloire, ma beauté. Puis la suprême expression de cette gloire-là, c'est à travers l'œuvre de Jésus-Christ. C'est là qu'elle est parfaitement exprimée. Soyez des adorateurs, puis invitez des hommes à venir faire leur délice de l'Éternel. C'est ça la mission. Le but suprême de l'Église n'est pas la mission, c'est l'adoration. Si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. Et puis, la même citation que j'avais dit au début, le but suprême est l'adoration, non pas la mission, car Dieu est suprême, non pas l'homme. Lorsque cette période de l'histoire arrivera à sa fin, que d'innombrables millions de rachetés se prosterneront devant le trône de Dieu, la mission cessera. La mission est une nécessité temporaire, l'adoration, en revanche, demeure éternellement. Amen. Donc, est-ce que vous avez des questions sur tout ce chapitre-là? On a le temps de prendre quelques questions, on a au moins 5 minutes. Commentaires d'abord? Il y en a qui sont meilleurs dans les commentaires que dans les questions. Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Oui, OK, excuse-moi Camille. Je pensais qu'il n'y avait personne, effectivement, je ne te voyais pas. Oui.
En fait, l'adoration n'existe pas ultimement sur toute la terre, donc la mission est obligée pour arriver à cet objectif-là de l'adoration sur toute la terre.
Oui.
C'est juste ça.
C'est ça, puis c'est ça individuellement. La mission existe parce que je rencontre une personne qui n'est pas un adorateur.
Voilà.
Un jour, lorsque Christ va revenir, ceux qui vont régner avec lui vont tous être des adorateurs. Je ne vais pas me promener en rencontrant quelqu'un qui n'est pas un adorateur de Christ. Tu comprends? Fait qu'il n'y aura plus de nécessité pour la mission. Mais la mission existe pour une seule raison. C'est pour c'est parce qu'on veut conduire le maximum de personnes à l'adoration. Non, c'est ça. C'est pour faire de toutes les nations des adorateurs. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis la beauté, dans le fond, de l'approche, c'est que ça met l'accent à la bonne place lorsqu'on pense à la mission. C'est vraiment ça que ça vient changer. T'es pas sauvé de l'enfer. T'es pas sauvé de l'enfer. Je m'en viens pas défendre tous tes faux raisonnements. Je m'en viens pas te faire rentrer dans l'Église. Je m'en viens pas protéger la culture chrétienne en Occident. C'est pas ça. Là. C'est pas ça l'idée. C'est que je veux que tu sois heureux. Je comprends que tu portes un masque, puis tout le monde porte des masques, mais ça se peut pas que tu aies connu le bonheur qu'on connaît lorsqu'on est un adorateur de Christ. Puis ce que je veux, c'est ça. Puis c'est ça qui va le plus glorifier mon Père. Fait que moi, tout ce que je veux, c'est qu'il y ait plus d'adorateurs de mon Père. C'est ça que je veux. D'autres questions, d'autres commentaires? Oui, Gérard. Oui, oui.
OK. Il y a un passage aussi qui dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il parlera de moi.
Oui, c'est ça.
Alors, même le Saint-Esprit est centré sur le Fils.
Oui.
Dirigé vers le Fils.
Oui.
Afin que le Fils puisse amener tout au Père.
Oui. C'est. Puis je me suis donné la liberté de faire un commentaire là-dessus tout à l'heure parce que, honnêtement, à toutes les années, je l'entends deux ou trois fois dans l'année. Il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit. Il me semble qu'on n'est pas équilibré. C'est comme si on manquait de respect envers la Sainte Trinité en exaltant le Fils puis en parlant toujours de Jésus-Christ. D'accord? Ben d'abord, lorsque je vais dans la prière, je prie premièrement le Père. Ça m'arrive vraiment souvent de prier Jésus, mais je prie premièrement mon Père. Jésus m'a dit, maintenant j'avais accès à mon Père comme lui a accès au Père. Fait que je prie mon Père. Moi, quand je vais dans la prière, premièrement, c'est toujours Père. C'est toujours ça, tu sais. Fait que c'est pas qu'on fait fi des trois personnes de la Trinité. Mais je vous dis, je l'entends souvent, des gens, ils sont comme offensés, mais en réalité, c'est vraiment une mauvaise compréhension des rapports au sein de la Sainte Trinité puis des desseins de Dieu. Dieu a élevé le nom de son Fils au-dessus de tout nom. C'est ça qu'il a fait. Et donc, lorsque j'exalte son nom au-dessus de tout nom, je ne suis pas en train de priver le Père de quelque gloire que ce soit. Aucunement. D'autres questions, commentaires? Oui? Flore, c'est ça? Oui. Juste un petit peu, veux-tu te lever puis nous parler bien fort, s'il te plaît, parce qu'on n'a pas de micro. Oui. 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 Oui, absolument. Donc, on n'enlève aucune gloire au Père lorsqu'on est en train d'approcher Dieu par le Fils. Pardon, d'aucune manière, ou lorsqu'on exalte le Fils. Donc, lorsque vous allez annoncer Jésus cette semaine à un collègue de travail, est-ce que vous allez voir les obstacles dans sa tête, puis vous dire... Ou est-ce que vous allez voir quelqu'un qui a fondamentalement besoin du bonheur qu'on a à adorer Dieu? Puis lorsque cette personne-là va vous dire, c'est quoi cette histoire-là d'un Dieu qui comme partage pas sa gloire, puis qui veut toute la gloire? Puis, est-ce que vous êtes réconcilié avec l'idée? Je l'ai fait le test pendant le cours. Hein, des fois, je jasais avec des gens, puis des chrétiens. Puis je disais, il n'y a rien qui passionne Dieu autant que sa propre gloire. Puis chaque fois que j'ai eu la conversation, j'ai produit un malaise. À chaque fois. Et puis c'est pas pour juger là, que je vous dis ça, là. C'est parce que je comprends qu'on est baigné dans une culture qui a façonné beaucoup nos raisonnements. Maintenant, moi, ce que je veux vous inviter à faire, je pense qu'on a fait la démonstration avec Piper que c'est la seule position raisonnable de la part de Dieu. Si Dieu était passionné par quelque chose d'autre, il serait passionné par quelque chose d'inférieur et de moins beau. D'accord? Mais ça, c'est raisonnable. Ça, c'est raisonnable. Ça, c'est la raison, c'est pas ce qui fait que tu meurs au combat. Hein? C'est pas ça. C'est la passion, c'est la conviction qui fait que tu t'en vas mourir au combat. Donc, est-ce que ça passe dans votre cœur, justement, de la tête au cœur, ça, Annie? Oui.
C'est pas nécessairement la culture qui vient nous donner ce clash-là. C'est le fait que ce qu'il enseigne, c'est de toujours s'abandonner nous-mêmes, tu sais, comme de pas s'aimer au-dessus des autres. Tu comprends de considérer l'intérêt de l'autre en premier. Fait que nous, on a comme. Parce que Dieu, en fait, Jésus s'est donné.
Oui, oui, oui.
C'est le clash qu'on vit dans notre foi à nous-mêmes.
Oui.
C'est pas la culture, parce que la culture est égocentrée.
Oui, absolument. Oui, je suis d'accord. C'est pas juste la culture, mais je pense que ça vient en partie de la culture. Je pense que ça vient aussi du fait que comme j'ai dit, la culture a été christianisée. J'ai pris du temps là-dessus la semaine dernière. La culture occidentale a été christianisée. Le fait qu'elle a été christianisée, notre vision de Dieu, c'est un Dieu serviteur. Ça l'a facilité énormément la montée de l'humanisme. Les êtres humains sont tous aimés par Dieu, créatures de Dieu. Dieu s'est offert en sacrifice pour les êtres humains, parce que les premiers humanistes étaient tous chrétiens. Là, okay? Dans leur philosophie au moins, là, est-ce qu'ils comprenaient toute la grâce? Je ne sais pas, là, mais les premiers humanistes, vous allez lire leurs écrits, Dieu est tout à fait présent, puis l'homme n'est pas supérieur à Dieu d'aucune manière. Donc, il y a ça qui est là, qui est dans la culture. Je pense que ça nous a affecté, nous. Puis effectivement, il y a cette idée-là que nous, comme hommes, notre plus grand bonheur, ça va être à se donner, pas à chercher vers nous. Maintenant, mon désir, puisque ce qui est ma prière, c'est qu'à travers ce livre-là, puis à travers ce cours-là, Dieu reprend sa place dans votre vision de Dieu. C'est pas parce que Dieu a été tellement bon et miséricordieux qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix que Dieu serait moins glorieux. Ça vient juste manifester sa gloire. Et donc, la seule chose qui est ultimement raisonnable de la part de Dieu, la seule chose qui est sainte, qui est belle, c'est que Dieu cherche la gloire de son nom. Il peut élever personne d'autre au-dessus de lui-même. Et c'est pas juste une question de raison, c'est qu'il est le plus beau. Quand on va être au ciel, ça sera pas une discussion. Vous comprenez? S'il y avait un smat qui arrivait au ciel et qui vous disait, « Bon, écoute, ça fait 4000 éternités qu'on adore Dieu, on change-tu de sujet? » Vous allez dire, « Je comprends pas de quoi tu parles. » C'est comme si je venais de te servir un super bon gâteau, puis tu veux me donner un caillou, c'est quoi? Tu veux qu'on croque un caillou pour une coupe d'éternité? C'est quoi la joke? C'est Dieu. Tu veux qu'on trippe sur quoi d'autre que Dieu? C'est Dieu. Maintenant, le fait que Dieu est miséricordieux, qui nous fait contribuer à sa gloire, il nous fait participer à sa gloire, il nous invite à entrer même dans sa gloire. J'ai pas pris le temps de développer ça parce que je trouve que c'est un refuge trop facile. Mais tu sais, l'Église devient l'épouse de Christ. Je vais juste voir mon temps, moi, là. OK. L'Église est l'épouse de Christ. Fait on est quand même vraiment glorifié. Quand vous y songez, là, puis vous allez dans l'Apocalypse, puis vous voyez la place que l'Église va occuper dans l'éternité, on est vraiment glorifié. C'est pas que Dieu nous donne pas de gloire. Il nous donne une beauté qui est vraiment superbe. Mais cette beauté-là est juste le reflet de sa gloire à lui. C'est juste parce qu'on est dans sa... On est la lune qui reflète le soleil, c'est tout. Jamais on va être le soleil, vous comprenez? Mais je veux dire, littéralement, l'Église est l'épouse de Christ. Dieu nous fait littéralement participer à sa gloire. J'ai pas voulu développer ça, puis Piper le développe pas, je crois, parce que c'est comme quelque chose qui... OK, ça me réconcilie avec la gloire de Dieu, parce qu'on va être là, tu sais. Lui, il va être là, mais... Nous, on va être là à côté, tu sais, fait que on va être comme l'épouse de Christ. Non, mais l'épouse de Christ, elle va juste être comme, j'ai marié le plus beau gars du monde. Elle va pas être comme, waouh, checkez-moi ma belle robe blanche. Non, c'est pas ça. Elle va juste être pâmée envers son époux. Il y a pas jamais l'idée que ça va être comme, it's my day because I'm the bride. C'est pas ça, là. Tu comprends? C'est son époux. Mais c'est là, c'est vrai que c'est là. Dieu nous a créés. Le peu inférieur à Dieu, c'est ce qu'il a fait. parce qu'il voulait nous exalter. Avec lui, on va être le reflet de sa gloire. En tout cas, j'espère que ça vous a fait avancer. Si ces choses-là ne sont pas claires encore pour vous, ben, je vais vous renvoyer vers les notes de cours puis vers le chapitre de Piper, puis mastiquez-le jusqu'à temps que la digestion soit complète, d'accord? Ça change notre vision de la mission. C'est vraiment une grâce. On va prier ensemble. Et je vous rappelle, la semaine prochaine, pause. On se revoit dans 2 semaines. Si vous avez déjà lu le chapitre 2, vous êtes en avance. Puis autrement, on attaque la prière. Moi, je vous encourage à le lire. C'est vraiment super bon. Seigneur notre Dieu, bien oui, nous voulons exalter le nom de Jésus-Christ, l'élever au-dessus de tout nom. Dans nos cœurs, Seigneur, parce qu'on a connu la grâce, la joie de savoir que tu nous accueilles, que tu nous aimes, que nous pouvons reconnaître que tu es grand et merveilleux sans sentir que ça voudrait dire que tu ne nous aimes pas, Seigneur. Je peux aujourd'hui élever le nom de Dieu au-dessus de mon nom puis dire, c'est toi le patron, c'est toi le boss, c'est toi qui dirige l'univers, c'est toi qui run ma vie, Seigneur, puis c'est parfait, c'est génial comme ça. Et je peux penser comme ça à cause de l'œuvre de Christ. Parce que j'ai découvert mon péché par la puissance de l'Esprit, j'ai découvert ta grâce et ta sainteté par la puissance de l'Esprit, puis ce miracle-là s'est produit dans mon cœur. Seigneur, on veut te prier pour nos familles, les gens dans nos familles qui ne sont pas chrétiens. On veut te prier, Seigneur, pour les gens dans notre voisinage, les collègues de travail, les amis qui ne sont pas chrétiens, Seigneur. On veut te prier pour les gens du Grand Longueuil, de la Montérégie qui ne sont pas chrétiens. Et on veut te prier comme nous instruit Paul, Seigneur, pour tous les hommes qui ne sont pas chrétiens sur la terre. Seigneur, tu nous as donné une mission, c'est d'aller faire d'eux des adorateurs. C'est de les conduire dans l'adoration. Et lorsque toute l'Église sera réunie, Seigneur, tu reviendras dans ta gloire et la mission cessera, parce qu'on t'adorera. Viens rafraîchir constamment notre vision, Seigneur, de l'évangélisation. Que notre vision ne soit pas d'aller faire obstacle à toutes sortes de faux raisonnements, que notre vision ne soit pas d'aller sauver des âmes de l'enfer, mais que notre vision soit de conduire des âmes au ciel dans la gloire, Seigneur, parce que tu es digne d'être adoré, d'être élevé, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.